Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce mardi matin est Stéphane Perrin-Sarzier. Il est vice-président du conseil régional de Bretagne en charge des finances. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous.
Alors on va parler, au hasard, de budget. Ce matin, on va commencer par ce constat sur ce budget qui n'arrive pas ou qui arrive dans la douleur au Parlement. Ça va avoir forcément, vous allez pouvoir nous le détailler, un impact aussi sur le budget de la région et sur les choix peut-être économiques de la région.
Oui, bah, y a d'abord une première contrainte, c'est que désormais on construit nous nos budgets avec finalement très peu de visibilité sur ce qui va se passer. L'an dernier, on avait voté notre budget au mois de décembre avec une loi de finances qui n'était pas votée. On a dû y revenir au mois de février une fois qu'on a eu le budget voté. Vous vous souvenez qu'on l'a eu très tard. Cette année, on va rentrer là dans la préparation de notre budget. On va finalement le voter au mois de février parce que ça ne sert à rien de le voter au mois de décembre. Mais pour l'instant, il faut bien le dire qu'on a très très peu de données, très très peu d'éléments stabilisés pour savoir quelles seront nos recettes, quelles seront les attentes qui vont être celles de l'État vis-à-vis de nous. Et donc, les élus locaux, nous, on sait faire une chose, c'est s'adapter. Donc on ne fait que ça en permanence. Mais c'est vrai que c'est très handicapant pour avoir des politiques de long terme.
Il n'y a pas une forme de fatigue à cette adaptation très protéiforme finalement et qui n'a pas de chronomètre dans le sens du temps?
Bah, c'est vrai que ça pourrait être assez décourageant. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous, on a la charge de services publics qui fonctionne bien. Alors, je dis nous la région, mais je pourrais dire autant nos collègues des départements et des communes. Moi, ce que j'observe, c'est que, par exemple, pour ce qui nous concerne, nos TER fonctionnent, nos services de car fonctionnent, nos jeunes mangent dans des cantines scolaires, ils sont servis tous les jours. Bref, on n'a pas de dégradation du fonctionnement de nos services publics. Dans le même temps, les services publics qui relèvent de la responsabilité de l'État, bah, vous voyez les hôpitaux, désormais, c'est régulé. Vous avez des services de police ou de gendarmerie qui manquent d'effectifs. Donc, je vois bien que les services publics de l'État sont assez en fragilité, voire très en fragilité. Nous, les nôtres fonctionnent. Donc, c'est bien la preuve qu'on a une capacité à faire. Et ce qui nous donne finalement, ou ce qui nous maintient, si je puis dire, de l'énergie, c'est le fait que, bah, par exemple, sur le TER, on a des renforts d'offres. Et on voit bien que ça répond à une demande de la population. Donc, si vous voulez, ce qui nous motive, c'est le fait qu'on est encore en capacité d'avoir des politiques publiques qui répondent à la demande. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de lassitude dans notre rapport à l'État, avec qui, finalement, il n'y a plus vraiment de dialogue construit aujourd'hui.
Alors, je ne cacherai pas aux auditeurs, d'ailleurs c'était tout à fait public, vous êtes exprimé récemment dans les colonnes de nos confrères du Télégramme, vous avez résumé ainsi votre analyse personnelle du budget 2026 version Le Cornu 2, c'est pire que le projet Bayrou, je n'ai plus aucune leçon à recevoir d'un État incompétent, impotent et impécunieux qui ne sait rien faire d'autre que de nous laisser des ardoises. Vous étiez très en colère.
Oui, j'étais très en colère. Alors, je l'ai dit après avoir eu un échange en comité des finances locales avec Mme Gatel et Mme de Montchalin. Je portais, il se trouve, la voix des régions de France de manière générale. Oui, c'est pire que le projet Bayrou, parce qu'il y a une très grande nouveauté en l'état du texte. C'est que non seulement on limite notre dépense de fonctionnement, et il faut bien comprendre que derrière la dépense de fonctionnement, ce n'est pas les petits fours des élus, hein. C'est ce que je disais, les cantines, les TER, les cars, les bateaux vers nos îles. Et en plus, désormais, on nous limiterait notre dépense d'investissement. Et là, c'est une très grande nouveauté. Je ne vais pas dire que c'est une politique d'austérité, mais on n'en est pas très loin. Et avec en plus un mécanisme de punition, c'est-à-dire que si jamais on dépasse la limite, eh bien, on nous repend de l'argent en plus, on nous repique encore des recettes. Donc oui, c'est un projet très dur. Et ce qui est agaçant, c'est que nous, collectivités, au global, on pèse 8% de la dette de l'État. 8%. Et que de la dette pour investir. Et on a un État qui nous dit « je vais vous prendre des recettes ». Je vais continuer à vous serrer la vis, alors même que lui-même est responsable de la quasi-totalité de l'endettement public. Donc c'est vrai que c'est assez agaçant de recevoir des leçons quand soi-même, on fait plutôt bien son travail. Et encore une fois, je le dis pour la région Bretagne, mais je pourrais le dire finalement de l'ensemble de mes collègues élus locaux.
avec une particularité. Les régions, les départements, les communes doivent voter des budgets à l'équilibre.
Alors, absolument.
Ce n'est pas forcément le cas de l'État. Vous voyez où je veux en venir. Il y a peut-être une petite dichotomie, là.
Il y a une dichotomie. Alors, cette règle qui veut qu'on vote des budgets à l'équilibre en fonctionnement, elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle a toujours existé. On s'y est toujours astreint. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu certes une augmentation de certaines dépenses liées à dépenses d'énergie, comme tout le monde en a été affecté, mais on a surtout eu pour la première fois un effondrement de nos recettes. On nous a pris 40 millions d'euros de recettes pour l'année 2025. L'année prochaine, on pourrait nous en reprendre autant et peut-être même un peu plus. Alors, c'était déjà compliqué quand on avait des recettes qui ne progressaient pas beaucoup alors que nos dépenses étaient très dynamiques. Vous comprenez bien que quand elles baissent, ben, ça déséquilibre beaucoup nos budgets et qu'il ne faut pas mentir aux gens. À un moment donné, avec moins d'argent, on fera moins de politique publique.
Vous parliez du budget, notamment un budget sous contrainte, puisque la région a décidé donc de geler 22 millions d'euros supplémentaires. Vous l'avez annoncé il y a quelques jours. Concrètement, quel secteur, quel dispositif va être concerné par ce gel ?
Alors, pour l'instant, on était sur une décision, on va dire, modificative en cours d'année. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on avait déjà annulé 40 millions d'euros de crédit par rapport au budget voté initialement au mois de décembre. Et là, on en a annulé 20 millions d'euros en fonctionnement. Donc, quand on est en cours d'année budgétaire, l'exercice, il consiste à décaler des appels à projets, par exemple, à décaler le versement de certaines aides, à décaler certaines opérations d'investissement quand on peut le faire. Mais les vrais choix stratégiques, ils vont être faits dans le prochain budget. On aura un débat d'orientation budgétaire au mois de décembre. Et ce que je peux vous dire, sans faire d'annonce aujourd'hui, parce qu'on est en train de l'élaborer, mais je pense qu'on aura deux points de vigilance. Le premier, c'est un, faire fonctionner nos services publics. Et ça sera la priorité. Donc ceux que j'ai décrits tout à l'heure, les lycées, les transports, la formation professionnelle aussi. Et deux, être prioritairement sur des dépenses qui vont directement aux Bretonnes et aux Bretons, plutôt que d'aide à des structures. Donc ça va impliquer, par exemple, de réduire d'aide à certaines structures.
Est-ce que parmi les critères qui vont aussi guider vos arbitrages, il y aura aussi celui du bois budgétaire, de la rapidité aussi d'exécution des projets, ou bien même, je dirais même, la sensibilité des programmes? Est-ce que ces critères-là vont aussi peser dans la balance?
Oui, le président nous a demandé, à passer commande à ses vice-présidents, d'être vigilant sur l'impact, parce que vous avez parfois des petites dépenses, mais qui ont un impact très important. Je redis par exemple que le président nous a demandé de continuer à préserver culture, langue et sport, ce qui fait débat. Mais nous considérons que le poids budgétaire de ces politiques, qui est finalement assez limité, au regard de l'impact pour le tissu associatif breton, par exemple, il est suffisamment important pour qu'on n'y touche pas. Donc ça veut dire qu'on aura d'autres choix à faire, effectivement, sur des aides à des structures, en termes de développement économique, où là, c'est vrai, il va falloir réduire la voilure.
Il y a une grande inquiétude du monde associatif, hein, vous le soulignez, Stéphane Perrin-Sarzier. On a entendu aussi les radios associatives, je ne résiste pas,
absolument,
puisque vous êtes aujourd'hui à notre micro, à vous demander finalement, est-ce que là aussi les budgets vont être maintenus, alors qu'on voit qu'il y a peut-être une grande économie qui va être faite au niveau de l'État, en tout cas au niveau du ministère de la Culture, qui pourrait mettre en danger ces structures radiophoniques associatives. Est-ce que la région a décidé, alors je ne vous demande pas scoop, mais est-ce que c'est dans les tuyaux, comme
on
dit ?
Non, non, alors je redis que la force de la Bretagne, c'est son mouvement associatif, et on a, c'est vrai, une inquiétude que vous avez raison de rappeler, c'est qu'on a plus de bénévoles qu'ailleurs, mais on voit bien que, y compris le bénévolat, s'essouffle un peu. Donc c'est vrai que c'est une vraie préoccupation. Je vous redis que sur les budgets culture, langue et sport, il n'y aura pas de baisse. Quand je dis ça, je suis bien conscient que je ne réponds pas forcément à la demande, parce que même en maintenant les budgets au même niveau, face à un monde associatif qui nous sollicite de plus en plus, parce qu'il y a d'autres financeurs, l'État qui se retire, face à l'augmentation des coûts pour le monde associatif comme pour le reste de la société, on sait qu'on est en limite de capacité aussi et que nos interventions peuvent être perçues comme insuffisantes. Mais c'est déjà un effort considérable que de maintenir cet engagement-là. Et je le redis, d'autres, dans des régions pas très loin, ont fait d'autres choix. On a des débats, et j'ai des interpellations en nous disant « Mais pourquoi vous voulez sanctuariser ces budgets? Ils devraient, comme les autres, être sollicités. » Nous pensons que non, parce qu'au regard de l'intérêt pour la Bretagne. Et on sait que le délitement du tissu associatif, derrière, c'est des demandes sociales qui ne sont pas satisfaites. Il n'y a pas que les collectivités qui répondent à des besoins de nos concitoyens. Il y a aussi le monde associatif. Donc ce sera maintenu.
Et justement, comment garantir que cette sanctuarisation ne se fasse pas au détriment d'autres sujets, comme par exemple les politiques sociales ou économiques locales ?
Alors, il y a des choix qui vont être faits. Encore une fois, on n'est pas encore... je vais rencontrer mes collègues dans les prochaines semaines pour y avoir son hors-budget. Moi, je redis que dans l'ordre des priorités, il va falloir maintenir les services publics. Voilà, donc ça, et ça pèse beaucoup. Mmh. Si je prends les mobilités, par exemple, du quotidien, c'est un tiers de notre budget de fonctionnement. Sur un milliard, c'est un gros tiers. Vous avez un autre gros tiers, c'est les dépenses de formation. Donc, les lycées, mais aussi la formation des demandeurs d'emploi. Je ne sais pas si on sera en capacité de maintenir le même volume de formation qu'on l'avait fait par le passé. Par chance, on est dans une région avec un taux de chômage qui est plutôt faible. Mais bon, et on sait qu'on a encore des demandeurs d'emploi à accompagner. Et puis, le troisième tiers, voilà, si je fais un peu cette répartition-là, c'est toutes les dépenses d'intervention. Et là, ne nous cachons pas, en dehors des secteurs que j'ai évoqués, oui, il y aura mécaniquement des réductions de dépenses à du soutien économique, parce qu'on ne pourra pas maintenir les niveaux qu'on a connus par le passé, c'est vrai.
Vous aviez parlé notamment de mettre en sécurité la collectivité. Cela veut dire notamment que la région Bretagne, est-ce qu'elle était menacée de déséquilibre financier sur le court terme ?
Non, mais on a un paramètre, c'est notre épargne en réalité, qu'on surveille. Sans être trop technique, il y a un paramètre qu'on regarde, c'est la capacité de désendettement qui se calcule en années. On est aujourd'hui à 5,4 années, donc on est même sous la moyenne des régions qui est à 6,1. Mais on sait que ça va se dégrader et on a une limite qui nous est fixée par ceux qui nous prêtent de l'argent, qui est de 8 ans. Donc on ne prendra pas de décision qui nous conduira à déraper sur le volume de notre endettement et qui nous mettra en sécurité. L'autre demande du président, c'est qu'on n'abandonne pas notre ligne de sérieux budgétaire qu'on a tenue jusqu'à maintenant et qui nous permet de faire face à des crises.
Mmh. Une bonne gestion, finalement.
C'est un impératif.
Alors, sur les investissements, il y a une crainte aujourd'hui. Vous la faisiez ressortir à travers votre voix. Cette crainte aujourd'hui, c'est d'être obligé d'ajourner de grands investissements en Bretagne.
Mais on l'a déjà fait d'abord. Et la Banque Postale a produit une étude qui montre qu'au début de cette année, depuis le début de cette année, les dépenses d'investissement des régions ont déjà diminué de 14%. C'est pas très étonnant, parce que quand vous faites des réductions de recettes, mécaniquement, comme on dit, nous on fait avec l'argent qu'on nous donne, puisqu'on ne décide pas de nos recettes aujourd'hui. Il faut que les gens s'en rendent bien compte. On ne vote quasiment pas d'impôts, taxe sur la carte grise et puis le versement mobilité qui sera effectif à partir de 2026, mais c'est des recettes qui sont minimes par rapport à notre budget. Bon. Donc les investissements, oui, on en a déjà décalé. Donc par exemple, un sujet que je suis personnellement à Saint-Malo du terminal du Nez, on l'a découpé en deux opérations, alors qu'on avait prévu de le faire en un seul. On a, pour tout vous dire, des sujets dans nos bâtiments au siège de la région qu'on est obligé de décaler parce que on doit faire des choix et qu'on a plutôt des besoins dans nos lycées ou dans la présence régionale, notamment à Saint-Brieuc et à Quimper, qui vont être des sites qu'on doit ouvrir pour être plus en proximité. Donc on fait le choix de moins investir sur notre siège, ce qui dégrade le patrimoine. Bon. Et puis il y a un autre problème qui est, à mon avis, est celui qui va être très, très dur à gérer maintenant, c'est que quand on investit dans nos dépenses d'investissement, on investit sur notre propre patrimoine, nos lycées, nos canaux, nos ports, etc. Et puis, on aide aussi d'autres à investir. Alors, il y a les communes, mais il y en a un qu'on aide beaucoup, c'est l'État. Et contrat de plan État-région, et c'est pour ça, c'est un peu une des origines de ma colère, c'est qu'on a un État qui est dans les injonctions contradictoires, qui nous dit d'un côté, vous devez réduire vos dépenses, y compris vos dépenses d'investissement, et qui nous dit de l'autre, investissez sur la RN 164. La RN 164, c'est une propriété de l'État. Mmh. On la finance à 50%.
L'État se débarrasse un petit peu discrètement.
Mais il nous demande beaucoup d'intervenir sur les bâtiments universitaires, sur des choses qui relèvent de sa capacité. Et à un moment donné, je ne sais plus si je vais devoir endetter la collectivité pour notre patrimoine ou si je vais devoir le faire pour aider l'État à sauvegarder son propre immobilier. Je pense que c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'interlocuteur.
Vous parlez de l'État notamment, la Bretagne, elle compte aujourd'hui trois de vos élus au gouvernement Le Cornu 2. Il y a Marie-Pierre Védrenne, Françoise Gattel et
Anne Le Hénanff, qui est ministre en charge du numérique.
Voilà. Est-ce que cette porosité État-région, pour vous, c'est plus une source d'affaiblissement politique, si on vous entend ce matin, ou plus une force de relais?
Alors, normalement, et j'ai connu d'autres aires politiques, avec quelle que soit la couleur politique, il y a un truc qu'on savait faire en Bretagne et qu'il ne faut pas qu'on perde, c'est le pacte breton. C'est-à-dire qu'en dehors des extrêmes, mais que ce soit les mélenchonistes ou le Rassemblement national, veulent la disparition de la région. Donc on ne voit pas très bien ce qu'on va faire avec eux. Mais tous les autres, quand on avait des sujets bretons, des sujets de pêche, etc., les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique, font pacte et montent à Paris. On a eu la période de Le Drian, dont on disait qu'il était ministre de la Défense et de la Bretagne. Donc c'est vrai que ça a toujours été une force. Le président du Conseil régional, Luc Chénard-Gérard, rencontre très régulièrement les parlementaires bretons, toute sensibilité, il l'a fait la semaine dernière. Les ministres étaient là, les trois ministres que vous avez cités étaient là. Mais le problème, c'est que ces trois ministres-là, comme les parlementaires, sont dans un maelstrom à Paris qui fait qu'aujourd'hui, tout est dilué. Moi, j'ai encore rencontré des ministres, pas plus tard que samedi, une ministre. Quand vous lui parlez, finalement, elle vous dit « mais moi, je n'ai pas la main, c'est au Parlement ». Et donc finalement, on n'a plus d'interlocuteur. Donc oui, c'est important cette présence bretonne. On peut citer le directeur de cabinet du Premier ministre qui a été préfet de la région Bretagne. Donc on a des interlocuteurs qui connaissent bien la Bretagne à Paris. Mais malheureusement, le processus décisionnel à Paris fait qu'aujourd'hui, ces points d'appui-là sont quelque part insuffisants.
Mais donc ça ne change pas le rapport de force.
Mais ça ne change pas le rapport de force, effectivement.
La question, vous la voyez venir, j'en suis certain. Est-ce qu'il va falloir à un moment penser à avoir plus de décentralisation, permettre plus de décisions sur le terrain, en l'occurrence en Bretagne? En gros, est-ce qu'il faut une plus grande autonomie pour la Bretagne? On en parle beaucoup de cette autonomie.
On a fait énormément de propositions, vraiment, et transpartisanes. Dans le mandat précédent, un premier groupe de travail présidé par Isabelle Le Bal, élu d'opposition à l'époque, et Jean-Michel Le Boulanger, qui était le premier vice-président. J'ai moi-même piloté un rapport, transpartisan aussi, sur la fiscalité locale. Mon collègue Michael Carnez a piloté un groupe autonomie, et on a refait des propositions. La lettre du Premier ministre, qui prévoit un texte pour le mois de décembre, nous a conduit, à la dernière session, à refaire un point et à refaire des propositions. Donc on ne pourra pas nous dire que la Bretagne ne fait pas de propositions. Et pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que quand les gens disent « on a tout essayé sauf le RN », c'est faux. Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est la décentralisation. Et je redis qu'on a besoin d'un État. Moi, je ne suis pas hostile à l'État. Je ne suis pas hostile au préfet. Je ne suis pas hostile au sous-préfet. J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut plus de préfets et de sous-préfets et moins de centrales. Mais il faut que l'État soit très bon sur police, justice, défense, santé. C'est là où on l'attend.
Le régalien.
Voilà, le régalien. Le régalien un peu plus que le régalien quand on parle de santé, d'université. On a besoin qu'il soit très bon là-dessus. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Et qu'il nous laisse la main sur le reste. Plutôt que de vouloir s'occuper de tout et de tout mal faire parce qu'il n'en a plus les moyens aujourd'hui. Et je le redis, nous, on est obligés de voter des budgets à l'équilibre en fonctionnement. Donc quand on nous donne une compétence, pour peu qu'évidemment on ait les recettes qui vont avec, on est obligé de bien gérer puisque la loi nous l'impose. Mais ça n'est pas dans la structure mentale de nos hauts fonctionnaires à Paris, parce que ce qui me frappe aussi, c'est que les mauvaises décisions que j'ai évoquées de ce projet de loi de finances-là, c'est dans les tiroirs de Bercy depuis très longtemps. Et donc quand on nous a dit gouvernement de rupture, on a plutôt ressorti des tiroirs les vieilles recettes dont j'entends parler un peu depuis très longtemps et qui, parce que le politique est plus faible aujourd'hui à Paris, ressortent des tiroirs et sont placés, et des ministres qui arrivent au gouvernement et qui récupèrent des textes qu'ils n'ont pas eux-mêmes contribué à élaborer.
Il y a une sorte d'opportunité technocratique, si vous me permettez le terme. Mais
j'ai fait le compte, je vous ai dit, l'année prochaine, je vais présenter mon 10e budget de la collectivité. Donc je suis VP Finance, je serai VP Finance depuis 10 ans l'année prochaine. J'ai connu 9 premiers ministres, 7 ministres des comptes publics. Et donc à chaque fois, vous redémarrez à zéro, en fait. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un changement, vous redémarrez à zéro. Sauf que les administrations centrales, qui sont très compétentes, c'est pas le sujet, mais elles restent. Et finalement, il y a une forme de permanence de ces administrations centrales qui ont leurs idées, leurs recettes, et qui les refourquent, si je puis dire, entre deux ministres, entre deux ministres en affaires courantes, et qu'on retrouve. Et après, on a beaucoup de mal à faire bouger les choses dans un sens qui nous est favorable.
Alors il y a eu la dissolution, il y a eu la recomposition, si on peut dire, d'un paysage politique très fracturé. On parle de motion de censure, j'imagine que vous suivez ça de très près. peut-être d'une possible dissolution, alors il pourrait intervenir vite, parce qu'après il y a un délai quand même, si dissolution, il y a, on va rentrer dans une période à nouveau d'incertitude, est-ce que ça devient aussi insupportable pour la région Bretagne, par exemple, d'être obligé de slalomer comme ça entre ces périodes compliquées?
Ben, ça devient d'abord insupportable pour nos concitoyens. Encore une fois, nous, comme tous les élus locaux, on va s'adapter. On a voté des budgets l'an dernier sans avoir de budget de l'État. Donc, on va faire. Et c'est pour ça que je disais mettre en sécurité la collectivité. C'est qu'il faut qu'on soit préparé à toute situation, quelque part. Parce qu'on ne va pas fermer nos lycées, on ne va pas arrêter nos systèmes, nos transports, etc. Donc, il faut mettre en sécurité la collectivité. Parce qu'en plus, rien ne nous dit qu'on n'aura pas un gros pet sur une grosse entreprise et qu'on ne doive pas intervenir comme on l'a fait. Donc, nous, on sait mettre en sécurité les choses. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que quand vous commencez votre mandat, vous avez un plan de mandat. Les collègues qui vont se présenter pour les municipales dans les prochains jours, ils vont faire un projet pour un mandat. On n'a même pas la visibilité sur une année. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez construire un projet avec des investissements sur 6 ans, un mandat local c'est 6 ans, en ayant des décisions qui sont prises au coup par coup chaque année? C'est impossible. C'est impossible. Donc le sujet, ce n'est pas tellement de faire des efforts. Moi, je dis, il faut, un, que ça soit proportionné. Les collectivités, c'est 8% de la dette. Donc, il faut qu'on contribue. Et j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on contribue. Et j'ai toujours eu ce discours-là, même du temps de François Hollande, qui avait aussi dû, à un moment donné, réduire nos recettes. Donc, proportionné. Deux, il faut qu'on ait de la visibilité, au moins sur un demi-mandat, sur 3 ans. Parce que on ne peut pas laisser penser que la dépense publique, c'est un robinet qu'on ferme. Quand vous faites un gros chantier de lycée, etc., c'est 1 an ou 2 ans d'études, puis des travaux. Donc, vous ne coupez pas l'opération en cours de route. Voilà. Et puis, trois, c'est arrêter les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un État qui nous dit d'un côté, on vous donne moins de recettes, et de l'autre côté, vous devez dépenser plus.
Au-delà des priorités internes, la Bretagne développe aussi des relations internationales, puisqu'on rappelle que vous êtes vice-président de la région Bretagne en charge des finances, des ressources humaines, de l'Europe et de l'international. Donc la Bretagne développe des relations internationales et européennes, un levier stratégique malgré les contraintes budgétaires. La région a accueilli l'ambassadeur d'Ukraine, Vadim Omelchenko, pour un partenariat potentiel avec Kherson. D'ailleurs, vous allez nous en parler, vous allez cet Absolument. Après-midi vous entretenir avec le gouverneur de la province de Kherson. Quelle était déjà la base, la portée concrète de cette rencontre? Est-ce que c'était un début de partenariat institutionnel?
Alors, ce que on avait déjà eu un premier échange assez émouvant d'ailleurs avec la gouverneure d'une autre province en visioconférence par l'intermédiaire de nos amis polonais de la province de Wielkopolska, avec laquelle nous avons effectivement un partenariat depuis de très nombreuses années, depuis 20 ans. Et là, nous avons reçu l'ambassadeur d'Ukraine. Ce qu'attendent aujourd'hui nos amis ukrainiens, c'est d'abord un soutien moral. C'est-à-dire qu'ils souhaitent pouvoir dire à leur population que les Européens sont derrière eux. Donc c'est très important, même si ça paraît symbolique, que l'ambassadeur d'Ukraine soit venu dans notre hémicycle. L'objectif, c'est de rechercher déjà ce soutien moral qui pourra déboucher déjà sur une déclaration d'amitié. Donc on va effectivement rencontrer cet après-midi avec le président du conseil régional, le gouverneur de la province de Kherson, qui est une province qui est coupée par la ligne de front, hein, qui est partiellement occupée. Et leur attente aujourd'hui, ils ne nous demandent pas des aides matérielles aujourd'hui. Ils nous demandent un soutien moral. J'ajoute que le mouvement associatif, on en parlait tout à l'heure, a beaucoup accueilli de jeunes Ukrainiens dans nos collectivités. Je sais que Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Agglo est très investi sur ce sujet-là, comme Lorient, comme Saint-Malo, comme Rennes. Donc on va continuer à faire cet investissement-là. Et puis dans le temps, parce qu'on espère quand même que la perspective de paix se dessinera un jour, eh bien on pourra passer à des partenariats plus concrets. Il y a déjà eu...
D'ordre financier, par exemple?
D'ordre, alors ça peut être d'ordre financier ou administratif. Quand l'ambassadeur est venu, il a aussi rencontré des entreprises françaises. Donc c'est aussi des sujets qu'on va travailler avec eux. Et très concrètement, aujourd'hui, par exemple, il y a des filets de pêche qui vont partir en Ukraine. Alors des filets de pêche, pourquoi? Parce que ça permet de lutter contre les drones. Des filets de pêche qu'on jette, bon, la Bretagne, c'est une grande région de pêche. Donc plutôt que de jeter des filets, Bon, ça paraît assez anecdotique et assez incroyable de lutter contre de la haute technologie par des moyens qui paraissent rudimentaires, mais pour eux, c'est très important. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va établir dans le temps, même si on est très loin aujourd'hui de pouvoir avoir des coopérations. Encore une fois, Kherson est une ligne de front, un théâtre de guerre. Donc, évidemment, c'est compliqué pour nous d'intervenir avec nos moyens aujourd'hui.
Est-ce que les régions, justement, selon vous, elles devraient avoir davantage de leviers directs à la fois dans les programmes européens de reconstruction, par exemple, comme celui que vous évoquez ?
Alors, il y a un sujet de dimension financière, donc je ne pourrais pas prétendre qu'on va contribuer à la reconstruction. Mais comme tout ce qu'on fait en matière internationale, finalement, je pourrais citer la relation qu'on a développée avec les nations celtes, avec l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles. C'est moins les engagements financiers que notre capacité à créer des liens entre les écoles ici et là, entre les musiciens ici et là. Donc ça paraît encore une fois assez modique, mais quand vous envoyez, comme on l'a fait il y a pas très longtemps en Irlande, un groupe musical comme Empoy qui a fait des prestations là-bas et qui tourne, et qu'on accueille des artistes, qu'on leur fait rencontrer des gamins ici et là, tout ça, ça contribue finalement à une proximité, et c'est peut-être à ça qu'on ira avec l'Ukraine, pour pouvoir développer ces relations avec des gens qui paraissent loin de nous, mais qui assurent, pour ce qui est de l'Ukraine, la défense quand même de l'Europe.
Je voulais aussi qu'on parle aussi de l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est un levier ou une contrainte budgétaire ? Vous êtes en charge donc des fonds européens, vous faites face notamment à des retards d'exécution, mais aussi à des procédures jugées lourdes par les acteurs économiques et associatifs. Où est-ce qu'elle en est concrètement aujourd'hui, la mise en œuvre des programmes européens 2021-2027 ?
Alors, elle est, et je tiens à le dire, et merci de me poser cette question-là, je tiens à dire qu'on utilise très bien les fonds européens. Voilà. Et c'est un sujet sur lequel on est meilleur que l'État. La programmation avant 2014 était faite par l'État. L'argent n'était pas dépensé. On rendait de l'argent à Bruxelles. 14-20, précédente période de programmation, 2014-2021, tout est dépensé. 2021-2027, tout sera dépensé. Il n'y a pas de retard d'exécution. Ce qui nous inquiète, c'est les décisions post-2027 qui sont en train de se prendre avec deux risques. Moins d'argent et plus de centralisation à nouveau.
Et plusieurs porteurs de projets affirment que la région, elle ne paye plus à temps. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Non, enfin, je ne sais pas de qui il s'agit précisément, parce que tout est payé dans les temps. Et encore une fois, alors que les porteurs de projets se plaignent de la complexité, ça, je le reconnais, je le partage, et ça fait partie des sujets que j'essaie de porter à Bruxelles avec les autres collègues des régions pour simplifier le recours aux fonds européens. Ça, il y a une complexité que je dénonce aussi, et je la partage. Mais en revanche, il n'y a pas de retard d'exécution aujourd'hui. Je peux vous garantir qu'on est dans les calendriers. Et c'est très suivi, parce que si vous êtes en retard, pareil, on vous reprend l'argent. Donc on n'a pas droit à l'erreur.
Voilà, pas de droit à l'erreur. Il n'y aura pas de droit à l'erreur non plus. Prochainement, on aura une élection présidentielle. Bon, on a encore un petit peu de temps. Mais voilà, ça commence à cristalliser un peu la vie politique française. J'imagine qu'on en parle aussi ici en Bretagne. Il y aura eu entre-temps les élections municipales. Est-ce que vous craignez, par exemple, si demain, pour faire simple, Rassemblement National ou LFI arrivaient au pouvoir l'un ou l'autre qu'il y ait de grands changements, des changements qui ne sont peut-être pas dans le sens des régions, et en l'occurrence de la région Bretagne.
Ah bah, si je dois parler, alors sur ce plan-là, mais pas sur tous, pas sur les autres, mais si je dois parler de la position de ces deux acteurs pour ce qui concerne les régions, le programme est le même, c'est de les supprimer. Voilà. Donc y a pas, c'est assez simple. Monsieur Mélenchon le disait la dernière présidentielle. Le Rassemblement national a encore redit qu'il supprimait les régions pour transférer leurs compétences aux départements, parce que le Rassemblement national pense que la bonne organisation, c'est la France du 19e siècle. Bon, avec les départements, les communes. Moi, je mets au défi, et je relancerai le défi autant que de besoin, je mets au défi ces gens-là de me démontrer que ça va faire des économies. Depuis que je présente des budgets, je fais chiffrer le poids, le coût de la maison Bretagne, de la région Bretagne. C'est 3%, moins de 3%. Si vous supprimez la région, alors vous allez supprimer des élus. Parce que c'est ça, en fait, qu'il y a derrière. C'est supprimer des élus, parce que vous n'avez pas fermé les lycées, vous n'avez pas supprimé les TER, donc il n'y aura pas d'économie. Ça va même coûter plus cher. Et on en a eu la démonstration avec la fusion des régions, où on nous a dit que ça allait faire 5% d'économie au global, et la Cour des comptes a dit que ça allait être plus cher. Donc, c'est un risque éminent, et ce que je crains, c'est les gens qui vont nous vendre des fausses solutions simplistes Donc moi, j'appelle vraiment les électeurs à bien approfondir les sujets quand on leur demandera de se prononcer, et ça peut arriver effectivement très très vite.
On en reparlera, le débat reste ouvert évidemment. Stéphane Perrin-Sarzier, vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge des finances. On a parlé beaucoup de finances ce matin, mais finalement c'était très important. Merci infiniment d'avoir
merci
été avec
merci.
Nous.
Merci Stéphane.
D'avoir
merci.
Partagé l'interview. Très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.